Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. À faire voler nos âmes est le premier volume d'une trilogie de Victoire Centenac. Distingué par le prix du roman 2019 du Salon international du livre de Mazamet et finaliste du concours Talent de demain 2020. Ce roman contemporain choral suit des personnages dont les trajectoires affectives et professionnelles se croisent autour d'un service hospitalier pédiatrique. Julia, qui travaille auprès des enfants, aspire à devenir mère avec son mari Paul, mais leur parcours de procréation médicalement assistée éprouve profondément leur couple. Autour d'eux, Clémence, infirmière, et Mathieu, médecin-chef, portent à leur tour des désirs, des fragilités et des contradictions qui modifient l'équilibre du groupe. Le livre aborde ainsi la maternité désirée, l'usure conjugale, l'infidélité, la souffrance psychique et les liens de soins. Son projet n'est pas de proposer une intrigue médicale technique, mais d'examiner comment des aspirations ordinaires au bonheur familial peuvent être bouleversées par l'attente. Les secrets et les choix individuels. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le parcours de procréation médicalement assistée comme épreuve intime et conjugale, le cœur émotionnel du roman repose sur l'attente d'un enfant chez Julia et Paul. Julia consacre sa vie professionnelle aux enfants hospitalisés, ce qui rend son désir de maternité à la fois cohérent et douloureusement paradoxal. Le récit met en regard le soin qu'elle apporte aux autres et son impuissance devant un projet personnel qui dépend de procédures, du temps et de l'incertitude. La procréation médicalement assistée n'est donc pas un simple élément de décor dramatique. Elle organise la fatigue du couple, infléchit l'image que Julia a d'elle-même et installe une tension entre espoir et épuisement. Paul soutient initialement cette quête, mais le livre montre que le désir d'enfant ne préserve pas automatiquement de l'éloignement. Les partenaires peuvent vivre une même épreuve selon des rythmes et des mots différents. Cette approche donne une place réelle aux conséquences relationnelles de l'attente, plutôt qu'à sa seule dimension médicale. Le roman attire également l'attention sur une souffrance souvent vécue dans la discrétion sociale. La volonté affichée de l'autrice de soutenir les femmes confrontées à cette attente confirme que Julia incarne une expérience douloureuse, sans réduire pour autant le personnage à un seul enjeu. L'épreuve devient un révélateur des vulnérabilités du couple et de la difficulté à maintenir un désir commun quand le corps et le temps semblent imposer leurs propres règles. Deuxièmement, des destins croisés pour observer la fragilité du bonheur familial, le roman adopte une forme chorale fondée sur l'entrecroisement de plusieurs vies. Julia et Paul ne sont pas isolés dans leur crise, puisque Clémence et Mathieu participent à une constellation de relations où les choix de chacun ont des répercussions sur les autres. Cette construction permet de déplacer régulièrement le regard entre des personnages qui ne disposent ni des mêmes ressources ni des mêmes attentes. Le bonheur conjugal apparaît alors moins comme un état stable que comme un équilibre précaire, soumis aux frustrations, aux désirs cachés et aux circonstances. Mathieu, médecin-chef marié et père, semble avoir atteint les repères ordinaires de la réussite familiale et professionnelle. Pourtant, son mal-être et ses infidélités fissurent cette image. Clémence, de son côté, est engagée dans une relation affective marquée par l'incertitude. En juxtaposant ces situations, Victoire Centenac évite de présenter la famille comme une réponse simple aux solitudes individuelles. Les liens peuvent protéger, mais aussi contraindre, décevoir ou révéler des failles anciennes. Les lecteurs signalent parfois l'abondance initiale des personnages et des sous-intrigues. Cette densité correspond toutefois au principe même de la saga familiale, qui cherche à saisir des interactions plutôt qu'un destin unique. Elle crée un cadre où les conséquences morales et affectives des décisions deviennent progressivement plus visibles. Troisièmement, est l'hôpital pédiatrique. Un cadre de soins qui amplifie les conflits privés, l'univers hospitalier pédiatrique donne au roman une assise concrète sans en faire un roman médical. Julia et Clémence exercent auprès des enfants, tandis que Mathieu dirige le service. Le travail de soins confronte quotidiennement les personnages à la vulnérabilité, à la dépendance et aux attentes des familles. Cette proximité avec l'enfance confère une intensité particulière à la situation de Julia, qui soigne des enfants alors que son propre désir de maternité reste inaccompli. Elle rend également plus frappante la dissociation entre la compétence professionnelle et le désordre intime. Les personnages peuvent être capables de prendre soin, d'organiser, de rassurer ou de décider dans leur métier, sans parvenir à maîtriser leurs relations personnelles. Le roman exploite ce contraste pour éviter une séparation artificielle entre vie professionnelle et vie privée. Le service hospitalier devient un lieu où les fatigues, les valeurs et les tensions affectives se croisent. La présence de Mathieu dans une position d'autorité ajoute un enjeu éthique et relationnel à ses comportements privés, sans que l'on puisse ramener son personnage à son seul statut de médecin. Les sources de présentation insistent sur la justesse ressentie de la réalité hospitalière par certains lecteurs. Cet ancrage contribue à la crédibilité du livre en inscrivant des conflits sentimentaux dans des gestes, des horaires et des responsabilités qui limitent la possibilité de fuir les difficultés. Quatrièmement, les secrets, les non-dits et la lente révélation des blessures. À faire voler nos âmes construit sa tension moins sur un mystère unique que sur l'accumulation de choses tues, différées ou mal formulées. Les personnages poursuivent des aspirations légitimes, mais leur silence rend plus difficile la compréhension mutuelle. Dans le couple de Julia et Paul, l'attente d'un enfant menace de remplacer le dialogue par l'épuisement. Chez Mathieu, la distance entre l'image sociale du mari et du père accomplie et ses conduites privées nourrit une autre forme de fracture. Clémence se trouve elle aussi prise dans une relation où l'attachement ne garantit ni la clarté ni la sécurité. La progression par souvenir et retour sur le passé, relevée par des lecteurs, élargit la perception des personnages. Elle invite à ne pas juger leurs décisions comme des faits isolés, mais à les replacer dans des blessures, des attentes et des contradictions plus longues. Ce procédé correspond à l'ambition d'une saga qui fait dépendre les révélations de la maturation des liens entre les protagonistes. Le livre ne traite donc pas le secret comme un ressort spectaculaire autonome. Il montre plutôt son coup quotidien, fait de malentendus, de ressentiments et d'isolement. Certains lecteurs peuvent trouver que le rythme ralentit lors des passages introspectifs ou que les révélations tardent. Ce choix privilégie cependant l'installation progressive d'une charge émotionnelle et souligne qu'une crise familiale est rarement provoquée par une seule information. En dernier lieu, une écriture émotionnelle orientée vers la résilience plutôt que vers la consolation facile. Les présentations et les retours de lecture décrivent un roman fortement centré sur les émotions, alternant tendresse, tension et moments plus sombres. Cette orientation convient au thème traité, car l'infertilité, la crise du couple et la trahison ne peuvent être réduites à de simples péripéties. Victoire Santonax s'attache à des personnages imparfaits, dont les actes peuvent déplaire sans annuler leur humanité. Cette attention aux nuances explique que la lecture soit souvent perçue comme touchante et immersive. Elle ne suppose pas que la souffrance produise automatiquement une leçon positive. La résilience y désigne davantage la tentative de rester attaché à ses aspirations malgré les épreuves, les erreurs et les ruptures de confiance. Le premier tome remplit aussi une fonction d'ouverture. Il installe des questions et laisse plusieurs tensions en suspens, afin de prolonger l'évolution des personnages dans les volumes suivants. Cette fin ouverte peut frustrer les lecteurs qui attendent une résolution complète, mais elle est cohérente avec le format annoncé de trilogie. Le livre se distingue ainsi d'une romance centrée sur un seul couple ou d'un récit hospitalier procédural. Il privilégie une étude sensible des liens et des conséquences affectives. Son intensité peut paraître appuyée à certains moments, mais elle correspond à une écriture qui cherche à faire ressentir la fragilité concrète des existences plutôt qu'à tenir les drames à distance. En conclusion, À faire voler nos âmes s'adresse en priorité aux lecteurs de romans contemporains français qui apprécient les sagas familiales. Les récits choraux et les histoires où les conflits intimes sont traités avec une forte charge émotionnelle. Il conviendra particulièrement aux personnes intéressées par la procréation médicalement assistée, les difficultés du couple, les blessures liées au désir d'enfant et les réalités humaines du soin pédiatrique. Sa lecture peut offrir un espace de compréhension des effets relationnels de l'attente et de la douleur. Notamment parce que le livre ne limite pas ses enjeux à une intrigue individuelle. Il permet aussi de réfléchir à l'écart entre les apparences de réussite et les fragilités que chacun dissimule. Par rapport à de nombreux romans sentimentaux, l'ouvrage se distingue par son réseau de personnages et par le rôle structurant de l'hôpital. La maternité y est envisagée comme un désir qui engage le corps, le couple, le travail et l'identité, non comme une conclusion automatique. Le livre se démarque également des récits uniquement centrés sur le drame en ménageant une place aux aspirations, à l'attachement et à la possibilité de continuer malgré les blessures. Les lecteurs recherchant une intrigue très rapide ou une résolution autonome de tous les conflits dès le premier volume pourront trouver le démarrage dense et les développements. Introspectif exigeant. En revanche, ceux qui acceptent la progression d'une trilogie y trouveront une entrée solide dans une histoire de liens fragiles, de choix difficiles et de résilience. Si vous souhaitez soutenir Victoire Santonax, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.